Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Les chroniques estivales de la librairie des étudiants. Rencontre en librairie parisienne. Aujourd'hui, nous commençons notre programme des rencontres en librairie parisienne que je vous propose pour cet été. À travers ces portraits, une rencontre avec des libraires et surtout, de nouvelles idées de lecture. Aujourd'hui, je suis rive droite. Prenez le métro ligne 3 et sortez à la station Saint-Thier. Je vous conseille de prendre la sortie numéro 2, rue des Petits Carreaux. Il vous suffira de traverser cette rue, sur votre droite, pour rejoindre dans la rue perpendiculaire la devanture de notre librairie du jour. Une devanture vitrée et verte olive où s'inscrit ce mot « librairie ». En vitrine, une sélection de livres, quelques romans récemment publiés, un ou deux intemporels. Derrière ces romans exposés à l'horizontale, un escalier en colimaçon nous emmène à un étage sûrement rempli de livres. Sur la gauche du colimaçon, une grande pièce au mur couvert de livres en tout genre, et évidemment, au milieu de ces milliers de pages, des clients, des lecteurs, des libraires. La vitrine de la Petite Égypte est aussi une serre, car hormis le fait de cultiver son esprit avec les livres présentés aux passants, il y a aussi un papyrus et quelques boutures. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Brice, un des libraires de la Petite Égypte. Je le retrouve à l'étage de la librairie, sur une grande table en bois ronde, gravée par des motifs noirs irréguliers, entourée de livres.
Bonjour Brice.
Bonjour Thomas.
Merci de me recevoir ici dans la librairie Petite Égypte. Déjà, première question, pourquoi ce nom, Petite Égypte ?
Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. Il y a plusieurs réponses. Je vais vous faire l'économie des réponses les plus abscons. Donc, juste en face de la porte de la librairie, vous avez la rue du Nil. Un peu plus loin, vous avez le passage du Caire, avec l'hôtel du Sentier et sa devanture un petit peu égyptomania. Si vous n'avez jamais vu, c'est un peu une attraction dans le quartier. Vous avez la rue d'Aboukir, la rue d'Alexandrie. Donc voilà, quand on a ouvert la librairie, c'était... l'occasion de s'inscrire géographiquement dans un espace.
Elle a été ouverte en quelle année, cette librairie ?
2016.
Et depuis, vous avez combien de personnes dans votre équipe ?
Alors là, actuellement, on est 4.
Ouais.
Voilà. À plein temps, de 4 libraires pour vous servir.
Donc, est-ce que c'est une librairie généraliste ou spécialisée dans un domaine ?
Alors ouais, on a souvent la question aussi, malgré le fait qu'on s'appelle librairie Petite Égypte, on est tout à fait généraliste.
Ouais.
Donc on fait aussi bien de la littérature, du livre pour enfants, ça les gens n'y pensent pas souvent. Mmh. Donc littérature générale, littérature jeunesse, des choses illustrées, de la BD à l'étage, beaucoup de sciences humaines. On est absolument généraliste, mais en bas, première chose que vous voyez en entrant le magasin, c'est un double rayon qu'on a appelé Orient. Donc Proche et Moyen-Orient dans leur conception la plus large.
Oui.
Donc voilà, on est généraliste, mais on a un axe quand même assez fort. Ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes libraire ?
Alors moi, personnellement, ça va faire 5 ans que je suis libraire, et presque 5 ans que je suis libraire ici.
Quel a été le déclic entre votre ancienne vie, on peut le dire comme ça, et cette vie de libraire ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il n'y a pas eu beaucoup de choses avant.
Ok.
Moi, j'ai fait une formation pour devenir libraire.
D'accord.
Donc, il n'y a pas eu grand-chose avant. Dès que je suis sorti de la fac, je suis arrivé ici et j'ai été libraire immédiatement dans la foulée.
Donc, depuis toujours, je devine un amour du livre.
Ouais, depuis toujours, qui a pris des formes assez variées. Il y a eu la BD quand j'étais enfant, il y a eu Sherlock Holmes quand j'étais tout gamin, il y a eu le manga, il y a eu des études en sciences humaines qui m'ont un peu ouvert l'esprit à d'autres choses. Il y a eu et puis finalement, voilà.
Autre petite question, parce qu'il y a quand même deux choses qui m'ont fasciné dans cette librairie. La première, c'est en faisant réaliser une fois un ex-libris de votre librairie ici, il y a le logo Petite Égypte et il y a une mouche.
Oui.
Là encore, je vais rentrer dans l'histoire et dans le détail. Pourquoi une mouche ?
Alors, c'est marrant que vous ayez repéré ça. Alors, la mouche, on s'en sert pour signer nos notules. Donc, les notules, c'est les petits coups de cœur écrits que vous avez sur les livres.
Oui.
C'est le nom scientifique du coup de cœur.
D'accord.
Et on s'en sert aussi sur certains paquets cadeaux. Et en fait, nous avons un festival annuel qui s'appelle Byzance, qui est lié à l'économie sous toutes ses formes dans le Proche et le Moyen-Orient, dans sa conception la plus large, comme je le disais tout à l'heure.
Oui.
Et on a présenté un livre qui traitait, dont le titre m'échappe, mais c'est quelque chose comme « Regarder les mouches voler » sur l'économie de l'attention. Et dans la foulée, on a fait ce petit tampon. Et en fait, c'est assez remarquable comme ça attire l'œil. Je ne sais pas si c'est parce que, du fait de nos intérieurs, on est un peu habitué à repérer les mouches chez nous, sur les murs blancs.
Peut-être, ouais.
Mais en fait, quand vous mettez sur un coup de cœur, sur une notule, une petite mouche, ça attire immédiatement le regard. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'est l'histoire de la petite mouche.
Deuxième particularité de la librairie, c'est quand on rentre, on est accueilli par votre équipe, mais aussi par des plantes.
Oui.
Qui ont toutes plus ou moins des noms. Quelles sont-elles ? Quelle est leur place si singulière dans cette librairie ?
Eh bien, dans la vitrine, on a un papyrus qui s'appelle Bob, qui est là depuis l'ouverture de la librairie et qui est très prolifique. C'est-à-dire que ça... Et le papyrus, ça se bouture très facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Et du coup, en bas, dans les petits pots, ce sont des bébés papyrus. Mmh. Et voilà, c'est tout.
Voilà, donc on est vraiment dans l'univers égyptien.
Ouais.
Il nous manque juste un peu le sable et une pyramide quelque part.
C'est presque une pépinière de papyrus.
En plus d'être librairie, pourquoi pas.
Et d'ailleurs, si les gens sont intéressés, veulent des papyrus, nous on fait des petites boutures. Ça se fait très facilement. Si vous passez au bon moment, vous pouvez partir avec une petite bouture de papyrus. Ouais. Aucun problème.
On a vraiment des librairies exceptionnelles.
Ouais, on fait de tout.
Bon alors, on va quand même revenir au but principal de cette librairie, qui est quand même de partager l'amour du livre et d'éveiller... les consciences et les esprits. Je vous ai demandé de faire une petite sélection de vos coups de cœur.
Ouais, que j'ai fait avec plaisir.
Bah merci, en tout cas, de vous être prêté au jeu. Quel est le premier coup de cœur que vous allez nous partager ?
Alors, je vous ai sorti 4 ouvrages.
Oui.
4 ouvrages, déjà, que j'ai beaucoup aimé, ça c'est une première chose.
C'est bien, c'est mieux.
Assez évidente. Mais c'est une sélection qui, je trouve, fait assez petite Égypte.
D'accord.
Contient assez bien notre ADN.
Oui.
Donc c'est des coups de cœur personnels, mais aussi des coups de cœur collectifs. Donc la plupart ont été lus par l'ensemble de l'équipe.
Vous n'imposez pas à vos équipes de lire vos coups de cœur ?
Non. Et surtout, très intéressant, comme on a des parcours de lecteurs et de lectrices, et surtout des appétences très différentes, ça fait qu'on peut balayer quand même tout un champ éditorial à nous quatre.
Oui.
Donc on ne va pas du tout vers les mêmes choses, on ne s'intéresse pas du tout aux mêmes auteurs, aux mêmes autrices, aux mêmes courants. Ce qui fait qu'à la rentrée littéraire, par exemple, quand vous avez 500 bouquins qui sortent en un mois, alors 500, on n'arrive pas à les lire. Par contre, à nous quatre, on peut en lire 30-40. Mmh. Et ça fait déjà un bon défrichage du paysage.
On aura l'occasion d'y revenir sur la rentrée littéraire.
Ok. Et du coup, on retombe assez rarement sur les mêmes coups de cœur. Parce que quand quelqu'un d'autre l'a lu, c'est pas forcément... Mais ça, c'est quasiment des choses qu'on a tous lues. Hein.
Alors, le premier.
Le premier dont je voulais vous parler, qui me semble peut-être le plus évident, le plus facile, le plus spontané, c'est Mon nom est rouge d'Orhan Pamuk, qui est prix Nobel de littérature turque en 2006, si ma mémoire est bonne. Gros morceau, vous pouvez
voir. C'est un pavé, on peut le dire.
C'est un pavé. Et ce que j'aime beaucoup avec ce titre, c'est que c'est un peu l'équivalent turc du nom de la rose d'Umberto Eco.
D'accord.
Parce que c'est un petit peu la même histoire. C'est un roman historique, c'est un roman presque policier, on pourrait dire, n'ayant pas peur du mot, ce n'est pas une insulte.
On n'a pas peur de mots dans cette émission,
voilà.
On y va.
Et donc, comme chez Eco, comme dans Le Nom de la Rose, on est sur un livre pour lequel des gens sont prêts à tuer. Et donc, il y a vraiment une enquête historique autour de la notion de savoir, la notion de foi, la notion d'illustration de cette foi. Et voilà, je le conseille... Surtout aux gens qui pensent ne pas aimer le polar, par exemple.
D'accord.
Parce que c'est vraiment une enquête qui se lit malgré elle, quoi. Donc c'est vraiment un vrai roman policier, un vrai roman historique. Et comme chez Eco, vous avez une érudition quand même assez folle. Et ça, c'est un vrai plaisir de lire ça.
Orhan Pamuk, Mon nom est rouge, aux éditions Folio.
Voilà, c'est ça. Dans cette édition la plus récente, mais c'était chez Gallimard avant.
Premier grand coup de cœur, alors.
Voilà, premier grand coup de cœur. Je vous ai sorti radicalement autre chose. Les aventures de China Iron, Gabriela Cabezón Camera, je suis désolé pour mon prononciation exécrable de l'espagnol.
Je ne vous en voudrais pas, j'ai fait allemand.
Voilà, moi j'ai fait italien, c'est pas ma langue naturelle. Aux éditions de L'Ogre, leurs éditions de L'Ogre qui sont nos voisins, amis avec qui on travaille de très longue date, c'est un catalogue qu'on défend beaucoup. Et je crois que c'est le premier livre que j'ai lu d'eux quand je suis arrivé ici. Et Les aventures de China Iron, c'est une relecture féminine, féministe et queer du Martin Fierro, qui est un poème séminal dans les lettres argentines. Un poème très viriliste, et on en a une relecture un peu plus, enfin, plus féminine et politiquement assez énervée, ce qui est tout à fait plaisant. Et donc c'est l'histoire de deux femmes qui, alors, non pas prennent le maquis, mais prennent la pampa, qui partent, essayent de faire famille autrement dans la pampa argentine. C'est presque un espèce de western. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup penser à Kelly Reichardt, à son cinéma, de prendre un genre qui est considéré comme très viril, le western, et d'en rebattre les cartes pour en faire quelque chose de, au contraire, de très féminin et de très queer. Et voilà, il y a un rapport à la lumière assez merveilleux dans ce livre. C'est des chapitres qui sont très courts, et parfois un chapitre c'est quelques mots, parfois un chapitre c'est un échange, et parfois un chapitre c'est juste une belle lumière sur les eaux du désert. Et voilà. Je trouve ça magnifique.
Donc une écriture assez intense et courte.
Ouais, c'est une écriture... le roman est un peu épais, mais par contre, il y a une espèce de brièveté dans le chapitrage, effectivement.
Ah ouais.
Et très intense, ouais.
Bon. Le premier, donc... Enfin, le deuxième à mettre dans son sac.
Exactement. Je vais partir sur mon troisième coup de cœur, qui est La mer au creux de ses mains, Nassia Dionysiou. Donc, pareil, le grec n'est pas ma langue maternelle.
C'est pas grave.
Et alors là, c'est quelque chose de beaucoup plus récent que ce que je vous ai montré avant et que je vais vous montrer après.
Oui.
Ça vient de paraître chez nous, d'être traduit. C'est traduit du grec chypriote. Et c'est le seul dans les quatre que je suis le seul à avoir lu pour l'instant. Et depuis le début de l'année, c'est ce que j'ai préféré. En 2025, pour l'instant, pour ce début d'année, ça a été mon très gros coup de cœur.
Ah oui, donc depuis janvier, ça reste l'indétrônable.
Voilà. Effectivement. Alors c'est sorti un peu plus tard que ça, mais oui, effectivement, pour l'instant, il y a... Rien n'est venu le challenger. Donc ça se passe à Chypre en 47, enfin juste après la Seconde Guerre mondiale, juste après la libération des camps. Et ça parle d'un tissu historique assez complexe. Donc Chypre, à cette époque, est sous domination britannique. De l'autre côté de la mer, l'État d'Israël vient d'être créé. Des Juifs... après la libération des camps, après le traumatisme, se rendent dans cette nouvelle terre d'Israël pour y vivre. Et en fait, les Britanniques mettent en place des quotas sur l'arrivée des Juifs. Et en fait, les quotas sont très vite remplis et les Juifs sont interdits de rentrer sur ce territoire et ils sont bloqués à Chypre, dans des camps. Et en fait, c'est l'histoire d'une terrible répétition de l'histoire. C'est... au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la libération des camps, des Juifs qui sont mis en camp à Chypre.
L'histoire bégaye, quoi.
Voilà. Et donc déjà, c'est un moment de l'histoire qui, je pense, est très peu connu. Moi, je ne connaissais pas du tout ce contexte-ci avant de lire le bouquin. Et la force de ce roman, parce que c'est tout de même romanesque, c'est tiré de faits réels, mais c'est romancé et c'est magnifiquement écrit. Et on peut reprocher parfois, en tout cas moi je le fais, reprocher à une certaine littérature engagée, politique, qui se veut très sérieuse, d'être, de sacrifier un petit peu le style. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est un roman engagé, magnifiquement écrit. Vraiment, l'écriture, elle est sublime. En fait, on suit un homme cultivé, un journaliste, qui est mandaté pour recueillir les témoignages des prisonniers. Donc il y a ce regard extérieur... qui n'est pas du tout doloriste. On n'est pas du tout là pour vous mettre les doigts dans les yeux et vous faire pleurer. Non, non. C'est très pudique. Et elle fait intervenir la figure de Paul Celan, du poète Paul Celan, qui est une forme de hantise poétique dans ce texte. Voilà, je trouvais ça sublime. C'est très court. Ça se lit en une demi-journée. Et moi, ça m'a beaucoup marqué.
Ça se ressent, en tout cas. Quel est, d'après vous, je rebondis sur ce que vous venez de dire, d'après vous... en tant que lecteur, pas forcément qu'en tant que libraire, mais qu'est-ce qui fait, d'après vous, que cette littérature engagée ou politisée a une forme, un fond très important, mais une forme beaucoup plus pauvre ?
Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûr.
Même si c'est des hypothèses que vous pouvez avoir.
Même si c'est moi, même si c'est moi qui l'ai dit, j'en suis pas persuadé. Okay. C'est juste que simplement, quand je lis certaines formes littéraires contemporaines, parfois je suis un petit peu déçu du style d'écriture. Et voilà, est-ce que c'est par peur, est-ce que c'est par volonté de faire très sérieux et que du coup, il faudrait, pour être sérieux, il faudrait être très triste, encore plus gris que la vie, entre guillemets.
Oui.
Je sais pas si c'est ça. Je dis pas que tous les auteurs et autrices font ça. En tout cas, quand je lis la rentrée littéraire, ça m'arrive souvent de me dire, C'est dommage, c'est hyper intéressant, mais il manque
un petit truc.
Une écriture derrière qui viendrait sublimer le sujet. Sublimer dans son sens, pas... voilà.
Bon alors, les écritures sublimes, peut-être que ça va être dans votre quatrième coup de cœur que vous avez à nous proposer.
Peut-être. Alors là, c'est un texte que nous avons tous lu et tous beaucoup aimé. La résistance des bijoux de Ariella Aisha Azoulay. Je vais essayer d'être le moins discriminant en parlant de Madame Azoulay. Elle est née à Tel Aviv.
Oui.
Elle est juive. Et en fait, elle part d'une identité donnée, celle d'israélienne. Et en s'intéressant à son passé familial, notamment par le prisme... Là, je vous ouvre, c'est très peu radiophonique, je vous ouvre l'ouvrage.
Alors, dans ces cas-là, on va décrire ce qu'on voit. Si ça vous... si je peux vous aider à tenir le livre, décrivez-nous ce qu'on voit. Et j'aime bien donner les pages à la page numéro 100, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux ?
Une forme littéraire brève, qui ressemble presque au niveau de sa mise en page à de la poésie.
Oui.
Est-ce que ça en est, est-ce que ça en est pas ? Bon, bonne question.
Libre au lecteur d'interpréter.
Voilà. Et sur la page d'en face, en regard à un document photographique.
Mmh.
Et en fait, il y en a quasiment toutes les pages sont construites comme ça. Donc il y a une volonté de mobiliser des documents illustrés, donc des illustrations, beaucoup de photographies, mais aussi des choses qui n'en sont pas. Et en mobilisant ces documents graphiques, notamment des photos de bijoux, elle détricote une identité assignée. Et elle retricote une identité avec laquelle elle se sent un peu plus en phase. Voilà, son prisme, c'est que son père était algérien, juif algérien. Sa grand-mère, dont elle reprend le nom, Aïcha, était algérienne. Et elle reconstitue une identité juive arabe, un petit peu masquée par une identité qui a été donnée plus tard. Donc voilà. C'est une espèce de on essaie de repenser l'identité à l'aune d'un passé familial et d'un passé un petit peu matériel, que ce soit par l'utilisation de documents photographiques et une réflexion sur l'artisanat, d'où le nom La résistance des bijoux. Elle s'intéresse à l'artisanat des bijoux au Maghreb. Voilà.
Est-ce que c'est pas aujourd'hui un peu une forme de... pas forcément d'un genre littéraire, mais d'un, non plus d'un mouvement, mais disons, d'une, on va dire d'une vague, de questionner ses propres racines. J'ai en tout cas le sentiment, pour lire un petit peu ce qui est publié, bah, j'ai pas la même force qu'un libraire, mais qu'il y a beaucoup de récits, de romans, qui cherchent justement à fouiller un peu son passé, sur plus ou moins une ou deux générations, et chercher même à comprendre qui on est.
Alors, sur le fond, c'est très vrai. Il y a beaucoup de romans, une espèce de littérature pas forcément récente, mais qui questionne nos origines, notre parcours. C'est ce que faisait déjà Annie Ernaux, questionner son rapport de classe, questionner sa famille, son modèle familial. Donc effectivement, c'est assez vrai, la famille, le passé reste un matériau très prisé pour l'écriture. Et en même temps, dans la forme, ce sont des formes tellement différentes qui peuvent être utilisés, que ça ne réduit pas la littérature à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, beaucoup d'auteurs et d'autrices se sont emparés de ce sujet, mais dans des volontés, des ambitions, des formes tellement différentes, qu'au final, ça, je ne suis pas sûr que ça fasse un corpus très cohérent.
Oui.
Mais effectivement, le dernier, Vanessa Spriggora, elle s'intéresse, patronyme, chez Grasset, elle s'intéresse à cette question-ci également. J'ai cité Annie Ernaux, mais... plein d'autres auteurs et autrices, effectivement, s'engagent dans cette veine presque autobiographique, mais à une génération d'écart ou deux générations d'écart.
Mmh. Donc oui,
c'est assez vrai.
Anne Angleterre, qui a reçu le prix Médicis de... J'ai mangé son nom.
Deck.
Julia Deck. Voilà, merci. On parle des publications. La rentrée littéraire commence à se préparer. Côté rive gauche, de l'autre côté de la Seine.
À côté rive droite aussi.
Côté rive droite aussi, mais oui, les éditeurs sont des deux côtés, c'est vrai. Mais je pense surtout à des gros éditeurs, mais il y a aussi des plus petits qui ont aussi des beaux catalogues, il faut ne pas l'oublier. Est-ce que vous avez déjà commencé peut-être à recevoir, vous en tant que libraire, des morceaux de la rentrée littéraire ? Est-ce que vous avez déjà peut-être quelques petits coups de cœur où vous allez poser une mouche, justement, sur un bout de papier ?
Alors effectivement, les libraires vivent un petit peu dans le futur.
Toujours.
Voilà, donc nous, on est déjà... pas forcément en septembre, mais en août déjà dans nos têtes.
Oui.
Régulièrement, on reçoit des représentants qui viennent nous présenter les catalogues pour préparer les offices futurs. Donc là, on a déjà travaillé une partie de ce qui sortira en août et en septembre. Mais là, je vous avoue que c'est un petit peu tôt pour que nous mettions le nez directement dans les choses sérieuses. Donc on a vu passer des noms,
oui.
On a vu passer des livres, on a vu passer des résumés qui ont l'air alléchants. Et on va recevoir dans la foulée ce qu'on appelle les SP, donc les services de presse,
oui.
Qui sont des exemplaires que les éditeurs nous envoient en amont pour que le jour de la sortie du livre, le livre soit travaillé, lu, la notule déjà rédigée, la mouche déjà posée. Voilà, ça s'amorce. On va les recevoir dès fin mai. On peut recevoir les premiers SP pour la rentrée littéraire. Et après, du coup, ça laisse quelques mois d'été de lecture pour bien préparer l'arrivée des nouvelles choses.
Donc ça n'est pas un mythe de voir un libraire partir en voyage avec les livres de la rentrée.
C'est tout à fait vrai.
Même quand il n'est pas dans sa librairie, il travaille.
C'est exactement ça. On parle beaucoup, et à raison, des professeurs qui, lorsqu'ils ne sont pas des enseignants, lorsqu'ils ne sont pas en cours, travaillent à la maison. C'est tout à fait vrai pour eux. C'est encore plus vrai pour les libraires. Quand un libraire ne dort pas, il travaille.
Ça vous arrive de faire des nuits blanches avec des livres ?
Ça m'est arrivé, ça m'arrive de moins en moins, parce qu'il faut quand même une hygiène de vie.
Mmh.
Et voilà, si on peut tordre le cou à un mythe un petit peu du métier de libraire, vous verrez rarement un libraire lire à la caisse. Sauf l'été où là, vraiment, Paris se vide.
Oui.
Et où là, effectivement, on a l'opportunité de lire à la caisse. Mais les libraires lisent surtout chez eux.
Une librairie, ça tourne évidemment avec ses clients, avec une équipe de libraires qui est passionnée et passionnante quand elle partage en plus ses coups de cœur, donc merci encore. Et puis il y a aussi le système de rencontres et dédicaces littéraires. La Petite Égypte, comment ça se passe ?
Alors, on a un agenda qui est quand même bien rempli.
Oui.
Depuis quasiment l'ouverture de la librairie, on fait 2 à 3 rencontres par semaine. Là, on tourne plutôt sur 2 quand même. Il y a eu des fois où c'était un peu plus que ça.
Mmh.
Beaucoup en sciences humaines et sociales. Pas que, mais c'est surtout ça.
Oui.
Gratuite, ouverte à tous et à toutes, qui se conclut par un petit pot auquel vous êtes conviés.
Donc ça veut dire qu'à la fin, on se dédicace son livre, en même temps, on boit un coup.
Alors, déjà, la dédicace, c'est qu'une partie. On fait...
Oui, parce qu'il y a une rencontre avant.
Voilà, on fait une discussion, une rencontre effectivement, alors qu'il peut prendre la forme d'une discussion, il peut y avoir de la projection puisqu'on a un écran et un projecteur, il peut y avoir des enregistrements de toutes sortes, il peut y avoir un dialogue entre plusieurs intervenants, il y a des séances de questions-réponses après cette petite présentation un peu formelle.
Oui.
Donc voilà, vous venez avant tout pour échanger avec des auteurs et des autrices et des gens qui sont spécialistes. Après, effectivement, vous avez l'opportunité de faire dédicacer votre livre. Ça, c'est un plaisir en soi.
Toujours.
Et après, effectivement, on propose un verre pour continuer l'échange de façon un peu moins guindée, peut-être. Donc voilà, c'est une formule, tout compris.
Ah oui, c'est rare. Je le souligne parce que les librairies ne le font pas tous, ce pot
Oui, et suivi. On propose ça systématiquement. Tout le monde est le bienvenu pour échanger, pour passer un bon moment ensemble, pour partager des bonnes choses.
Donc est-ce que, au synonyme, enfin à la librairie, est-ce qu'à la définition d'un dictionnaire, on peut aussi rajouter lien social ?
Ouais, alors il y a eu énormément de questionnements sur la librairie comme troisième lieu, on dit. Donc voilà, il y a toute cette mode des librairies café, par exemple.
Oui, bien sûr.
Donc oui, la librairie, c'est un carrefour social, c'est un lieu de halte, c'est un lieu de flânerie, un lieu d'échange, d'apprentissage. Et on essaie de mettre ça en place parce que les librairies, ce sont souvent des librairies de quartier. Nous, on a une clientèle d'habitués, de gens qui habitent le quartier ou proche, qui passent souvent à la librairie régulièrement.
Oui.
Pas forcément pour acheter d'ailleurs. Il y a des gens qui passent très régulièrement pour discuter, pour échanger quelques mots, les nouvelles, pour prendre un café ensemble. Donc voilà, il y a une vraie volonté d'accueil et d'échange. Donc oui, la dimension sociale de partage dans une librairie, elle est essentielle et elle est inesquivable. On n'est pas là pour vendre des livres et simplement bonjour, au revoir, merci. Non, ça ne se limite pas à ça et ça ne pourrait pas se limiter à ça de toute façon.
C'est ce qui fait aussi, je crois, la force des librairies indépendantes.
Ouais, c'est ce qui fait aussi le plaisir d'être libraire. C'est ce qui fait que vous venez vers nous plutôt que d'aller à la FNAC, où là, effectivement, c'est bonjour, merci, au revoir.
Voilà. Quand c'est pas l'extrême.
Quand c'est pas chez Amazon, où voilà, là, c'est ni bonjour, ni au revoir. Ouais.
Hein. C'est clic-clic, quoi.
Voilà, vous venez. Le service librairie à Paris, il est strictement meilleur qu'Amazon. Hein. Notamment via la plateforme qui s'appelle Paris Librairie.
Bien sûr, ouais.
Vous cherchez quelque chose, vous êtes pressé, vous allez sur Paris Librairie, vous tapez ce que vous cherchez, ça vous dit qui l'a en stock, vous pouvez le réserver, vous passez, vous avez un sourire, un café, le temps s'arrête, vous avez le droit à un conseil, vous avez le droit à un échange, voilà, et puis vous repartez avec votre livre sans que personne ait fouillé votre colis, sans qu'il y ait de retard, voilà. Donc disons-le, le service librairie à Paris en tout cas et dans les grandes villes, il est strictement meilleur qu'Amazon.
Il restera toujours meilleur.
À tous les aspects, même à l'aspect efficacité dans le temps.
Oui, et Dieu sait qu'à Paris, gagner du temps, c'est quelque chose.
Et simplement pour revenir sur l'aspect animation culturelle,
bien sûr.
Je vous ai parlé des rencontres toutes les semaines. Et on a aussi quelques initiatives qui poussent la chose un petit peu plus loin. Tous les premiers mercredis du mois, nous avons un ciné-club.
Oui.
Un ciné-club en aveugle. Vous ne savez pas ce que vous allez voir jusqu'à ce que le générique démarre. Ouvert à tous et à toutes, gratuit, et qui se conclut là aussi par un pot. Alors peut-être qu'on a un souci avec les pots.
Non,
bonne chose. En fait, chacun amène quelque chose à grignoter, à boire, et après c'est mis en commun. Et vous pouvez discuter du film vu avec des gens dans une librairie la nuit, ce qui est un peu le rêve de chacun, je pense.
Librairie cinéma, ouais, c'est
voilà, exactement. Et on fait aussi un festival annuel qui s'appelle Byzance. Donc ça tombe en avril. Là, vous avez raté l'édition 2025. Effectivement. Donc c'est un festival qui est centré sur l'économie sous toutes ses formes, dans l'espace méditerranéen, proche et moyen-oriental. Et donc le thème de l'année dernière, c'était bijoux, choses précieuses. Le thème de cette année 2025, c'était banque, butin, trésor.
Oui.
Et voilà, on gravite autour de la notion d'économie, mais de façon assez ludique. Et là, c'est 3 jours dans les murs. 3 jours où vous avez des rencontres, des présentations, des échanges, des dédicaces, des animations culturelles diverses et variées, des petites fiestas, il faut le dire aussi. Des banquets.
En fait, ce lieu n'a le nom de librairie uniquement sur la façade, si je comprends bien.
On peut dire ça. C'est un lieu social d'échange et où on vend des livres aussi.
Oui, c'est quand même le plus important.
On nous pose souvent la question de est-ce que la FNAC vous concurrence ? Est-ce que Amazon vous concurrence ? Est-ce que les autres librairies vous concurrence ? Je parle ici pour les librairies parisiennes, bien en tout sûr. Cas. Après le Covid, je pense qu'il y a eu quelques mauvais réflexes d'acquis. La facilité présumée en tout cas de commander sur Amazon, qui était déjà implantée avant, mais je pense que le Covid a un peu développé ça. Et en fait, j'aimerais juste insister sur le fait que vous avez toutes les raisons de vous rendre à la librairie, même si vous êtes pressé, même et surtout si vous ne savez pas ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez qu'être bénéfiquement surpris par ce que la librairie française, a fortiori la librairie parisienne, peut vous proposer. Il y a une telle diversité, un tissu de librairies tellement dense en France, et notamment à Paris, que vous faites 500 mètres, vous trouvez une librairie que vous n'aviez jamais vue. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les librairies proches de vous et sur ce qu'elles proposent. Il y a des librairies qui sont spécialisées. Et grâce à ça, vous avez accès à des choses que vous ne soupçonnez même pas extrêmement facilement.
Et des univers infinis.
Exactement. Et vous parlez avec des gens qui sont spécialistes de telle ou telle chose. C'est pas toutes les capitales, c'est pas toutes les villes qui ont la chance d'avoir un tissu aussi riche en termes de propositions.
Sans oublier qu'en plus, de par une loi passée par un ancien ministre de la Culture, M. Lang, le prix du livre est unique de partout. Et j'en ai parlé dans une chronique précédente parce que j'avais appris aussi qu'une librairie, un de vos confrères, avait passé la clé sous la porte du côté du 16e arrondissement de Paris, une très belle librairie indépendante qui a dû fermer. Et je réitère ce que j'ai dit durant cette chronique. Je pense qu'un achat d'un livre en librairie indépendante est un acte social qui a bien plus de poids et qu'effectivement passer la porte des grandes enseignes qui veulent un peu la peau, d'autant plus que les grandes enseignes ont déjà suffisamment d'argent.
Exactement.
Donc, mais si c'est... en plus on peut soutenir des libraires indépendants, c'est quand même toujours mieux.
Vous faites bien le... Tu fais bien de le redire, parce qu'effectivement cette loi n'est pas aussi connue que ce que les libraires aimeraient qu'elle le soit. Il y a beaucoup de gens qui nous posent très naïvement la question du prix du livre. Donc voilà, c'est bien de rappeler que le prix du livre est unique et décidé par l'éditeur, et pas décidé par les libraires. Et donc que vous alliez en librairie indépendante de quartier, ce qui vous coûte 10 minutes de temps, et en plus il fait beau, et vous avez un super service, où vous alliez sur Amazon, où vous alliez à la Fnac, où vous alliez dans une très grande enseigne, c'est le même prix partout. Voilà, c'est ce qui permet une telle vitalité à la librairie française.
Merci Brice.
Merci à vous
de m'avoir reçu dans votre librairie, la Petite Égypte. J'invite tous celles et ceux qui nous écoutent à venir à votre rencontre, même ceux qui viennent au détour d'un voyage à Paris.
Exactement.
Moi, je pars de l'adage que quand on rentre dans une librairie, on ne ressort jamais les mains vides. Il y a des chances que je reparte avec des livres là, dans quelques instants.
Donc, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Francophone ou pas, que vous soyez de passage ou parisien, vous êtes le bienvenu à la librairie Petite Égypte. On a une sélection en anglais, des livres bilingues franco-arabes, et puis la littérature traduite ou en français.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour découvrir une nouvelle librairie parisienne. D'ici là, vous pouvez retrouver la capsule auditive de notre entretien du jour avec Brice, ainsi que ses coups de cœur littéraires en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8, à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer un bel été et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.